Place Info.
Bonjour Agnès Buzyn.
Bonjour.
Une mesure annoncée hier lors du Grenelle contre les violences vous concerne directement puisque les femmes, toutes les femmes victimes de violences auront bientôt la possibilité de porter plainte directement à l'hôpital. Comment ça va se passer ?
Alors, nous commençons à travailler cette mesure puisqu'elle a été annoncée hier. Il y a des conventions qui existent aujourd'hui entre certains hôpitaux, des services de police, et ça nécessite d'être déployé dans tous les services d'urgence. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas absolument partout. Donc nous allons prendre les initiatives qui fonctionnent sur le terrain et nous allons renforcer en fait cette nécessité de mieux travailler ensemble et de permettre effectivement aux femmes, lorsqu'elles sont à l'hôpital, de porter plainte sans avoir à se déplacer vers le service de police. Donc c'est un travail qui
débute. C'est le policier ou la policière, ou le gendarme d'ailleurs, qui viendra à elle.
Absolument. Donc nous allons travailler avec le ministère de l'Intérieur pour mettre en œuvre cette mesure de façon effective, sachant qu'il y a déjà des expérimentations et que des conventions existent déjà entre certains hôpitaux. Ce sont aujourd'hui des très gros hôpitaux, souvent des CHU, qui ont conventionné avec les services de police et nous devons déployer cette mesure pour faciliter la vie des femmes. Ça sera fait dans les mois qui viennent.
C'est une mesure qui semble évidemment de bon sens, mais qui inquiète pour autant certains personnels hospitaliers. Je propose d'écouter Frédéric Adnet, qui est le chef des urgences à l'hôpital Avicenne, à Bobigny, en Seine-Saint-Denis.
On ne peut pas transformer les urgences d'un hôpital public en commissariat. Il est pour moi essentiel de conserver une véritable étanchéité entre la médecine et les forces de police.
Est-ce que ça signifie qu'il y aura des policiers dans tous les hôpitaux ?
Non, certainement pas. Et je comprends tout à fait l'avis de ces soignants. D'abord, on ne peut pas augmenter le travail ou surcharger le travail des soignants à l'hôpital, notamment dans les services d'urgence. Donc on comprend bien que ça doit s'organiser pour que ce ne soit pas du travail en plus pour les soignants. Et on ne doit pas transformer effectivement des boxes d'urgence en commissariat de police. Donc tout ça doit être réfléchi et mis en œuvre de façon concertée avec les soignants.
Ça se fera, pardon d'être très concret, dans une pièce à part,
oui,
à l'abri des regards, des oreilles.
Ça doit s'organiser absolument. Ça doit être à distance, notamment des regards des autres malades. Enfin, on voit bien que ça nécessite quand même d'être organisé. Et tous les services aujourd'hui ne sont pas en capacité de le faire. Donc, on va partir des expériences qui ont déjà été mises en œuvre pour voir comment le déployer partout en France.
Agnès Buzyn, on parle de l'hôpital. Ce sont désormais quasiment la moitié des services d'urgence qui sont impactés par la grève en France. Est-ce que vous êtes dépassé par ce mouvement ?
Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Je veux pas faire une bataille de chiffres. Aujourd'hui, les chiffres que j'ai venant des agences régionales de santé, c'est qu'il y a autour de 200 services en grève
sur
640 à peu près.
Un petit tiers.
Un
tiers. Vos chiffres,
mais
les chiffres syndicaux évoquent quasiment la moitié.
Vous voulez dire que le mouvement recule à vos yeux ?
Non, certainement pas. Non, je ne dis pas qu'il recule, je dis simplement qu'on n'a pas exactement les mêmes chiffres, mais ça n'est pas grave, ça n'est pas le sujet. Aujourd'hui, je fais des annonces pour transformer la vie des soignants, parce que j'ai parfaitement entendu les difficultés qu'expriment notamment le collectif interurgence, c'est-à-dire des difficultés à trouver le temps de soigner, des incivilités auxquelles ils ont à faire face. Ils ont besoin de retrouver du sens dans leur travail, c'est-à-dire d'avoir le temps de prendre en charge correctement les gens, et clairement les urgences aujourd'hui sont débordées. Je ne vais pas revenir sur le constat, je crois que le diagnostic il est fait, il est partagé, les Français le connaissent. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de recentrer les urgences sur là où elles sont utiles, c'est-à-dire pour les cas les plus graves. Faire en sorte que nos concitoyens qui accèdent aux urgences aujourd'hui parce qu'ils ne trouvent pas de médecin puissent avoir des alternatives et puissent ne pas aller aux urgences quand ils ont la possibilité d'aller ailleurs. Et je vais leur faciliter la vie pour pouvoir aller ailleurs et être pris en charge aussi bien que dans un service d'urgence. Et puis, je veux faire en sorte que au sein des services, ils aient plus de facilité à coucher les malades. On voit bien la difficulté des soignants de trouver des lits. Et donc là, nous allons organiser tous les hôpitaux pour qu'ils réservent un certain nombre de lits chaque jour. On est capable de définir chaque jour dans les services de combien de lits on aura besoin. Et ça va s'organiser de façon à ce que les soignants aux urgences ne passent pas leur temps à courir derrière des places pour coucher les malades.
Agnès Buzyn, des personnes âgées qui restent pendant des heures et des heures sur des brancards, ce sera bientôt fini à l'hôpital.
Absolument. Donc
vous en prenez l'engagement.
Alors, je prends l'engagement et c'est une des mesures fortes qui est aussi en lien avec la loi sur le grand âge, parce que je suis aussi alertée sur le fait que souvent les personnes âgées décompensent, s'aggravent lors d'une hospitalisation parce qu'elles passent aux urgences, parce qu'elles attendent sur un brancard, parce qu'elles sont prises en charge dans des conditions trop longues, trop lentes, et elles passent trop de temps à l'hôpital alors qu'elles devraient très vite retourner à domicile. Et donc, je veux faire en sorte qu'il y ait une filière de prise en charge organisée, et ça se fait dans certains hôpitaux.
C'est-à-dire une personne âgée qui arrive aux urgences, emmenée par sa famille ou par une ambulance, on lui dit quoi? On l'emmène où?
Alors, aujourd'hui, justement, on prévient l'arrivée des personnes âgées aux urgences. Il y a beaucoup de cas où ça n'est pas nécessaire, mais les personnes, notamment en EHPAD, étant un peu démunies devant une personne âgée qui chute, vont l'emmener aux urgences. Donc maintenant, nous allons installer une vidéo-assistance dans tous les EHPAD avec les SAMU, de façon à ce qu'il y ait des conseils aux infirmiers et aux infirmières en EHPAD. J'étais à Poitiers lundi, et ça fonctionne, et ils me montrent les photos des chutes, et ils sont capables de dire aux soignants, non, cette plaie, elle est pas grave, vous mettez juste un pansement, c'est pas la peine de l'emmener aux urgences. Ça facilite la vie des soignants en EHPAD, ça évite des hospitalisations inutiles, et je veux que lorsqu'il y a besoin d'hospitaliser une personne âgée qui est connue dans l'hôpital parce qu'elle a une maladie chronique, elle ne passe pas par les urgences, elle soit prise en charge directement dans le service qui doit la prendre en charge.
Mais Agnès Buzyn, va retomber là sur la question des moyens. Est-ce que les hôpitaux ont suffisamment de lits, donc hors des services d'urgence, pour accueillir ces personnes âgées?
Alors, force est de constater que lundi à Poitiers, j'ai vu effectivement un service qui est en charge de la gestion des lits. Donc c'est un service qui a, dans des écrans, tous les lits disponibles dans l'hôpital. Et il y a impossibilité dans les services de garder ces lits pour leurs propres malades. Donc ces lits, ils sont mis à disposition des urgences. Chaque jour, l'hôpital sait exactement combien de lits sont nécessaires. Il y a 4 personnes à Poitiers qui travaillent uniquement à décharger les urgences du fait de trouver un lit. Et donc, ça s'organise, ces logiciels existent. Je vais équiper tous les hôpitaux de ce système de gestion de lits avec des personnes dédiées. Et nous allons réserver des lits pour que les soignants aux urgences soient enfin déchargés de cette tâche. Ce que je voudrais que vous compreniez aujourd'hui et que nos concitoyens comprennent, c'est qu'il y a une surchauffe aux urgences. Il y a une augmentation de l'activité de 3 à 5% par an depuis des années. Les moyens ont été mis, en réalité, les moyens ont suivi.
Mais le mouvement continue, le mouvement de grève continue.
Je voudrais
depuis
terminer
six mois.
Juste le. Et donc les moyens ont suivi. Et pour autant, le malaise s'accentue et la fièvre monte dans les urgences. Et donc, je veux ne pas traiter uniquement le symptôme. C'est-à-dire que je cherche aujourd'hui des solutions pérennes, un traitement de fond au mal-être des urgences, pas
traitement
seulement faire baisser la fièvre.
Agnès Buzyn, pas seulement... passera par d'autres annonces budgétaires où tout est déjà sur la table.
Non, non. Lundi, je ferai des annonces supplémentaires. Là, j'ai simplement annoncé ce qui correspondait à ma visite de Poitiers, c'est-à-dire ce qui fonctionnait à Poitiers.
Des créations de postes.
Donc, il y aura. Mais par exemple, on voit dans certains services que le problème, ou dans certains hôpitaux, que le problème, c'est l'aval des urgences, c'est-à-dire le fait que les urgences ont beaucoup de malades et ne sont pas en capacité de les faire hospitaliser. Il y a certains services où il va falloir remettre des moyens. C'est pas forcément aux
créer
urgences.
Des postes.
Et donc, éventuellement, des postes et des moyens, mais fléchés.
Des postes créés ou redéployés, Agnès Buzyn?
Non,
créés.
Créés. Et il y a évidemment, et j'en ai créé aussi cet été. Cet été, j'ai mis des moyens pour pouvoir recruter du personnel là où il en manquait. Et puis, il y a des endroits où il faudra des gestionnaires de lits. Ça, ce sont des postes. Et donc, on voit bien que sur toute la chaîne de prise en charge, il y aura besoin d'inventer des dispositifs nouveaux ou d'utiliser ceux qui fonctionnent déjà, de mettre des moyens là où il y a besoin. Et les besoins sont différents d'un hôpital à l'autre.
Dans un instant, Agnès Buzyn, on va tenter d'y voir un peu plus clair sur la réforme des retraites. Il y a du boulot, comme dirait Renaud Dely, parce qu'on n'y comprend plus rien. Mais d'abord, l'actualité à 8h41, c'est Lauriane Delanoë.
Les syndicats de finances publiques appellent à la mobilisation contre les suppressions d'emplois. 5 800 postes en moins à Bercy d'ici 2022. Conséquence de l'instauration du prélèvement à la source et de la fin de petites taxes d'après le ministère de l'Action et des Comptes publics. Le PDG d'Aigle Azur démissionne. Frantz Yvelin l'annonce ce matin sur BFM Business. La compagnie aérienne française placée en redressement judiciaire, elle emploie plus de 1100 salariés. Des quartiers entiers transformés en lacs où flottent des carcasses de voitures. Les Bahamas ravagées par Dorian, au moins 7 morts selon le premier ministre de l'archipel. L'ouragan classé en catégorie 2 longe maintenant les côtes de la Floride. C'était le jour de Grigor Dimitrov, reconnaît ce matin Roger Federer. Le Bulgare a battu le Suisse numéro 3 du tennis mondial en quart de finale de l'US Open cette nuit. En demi, il affrontera Daniil Medvedev, vainqueur lui de Stanislas Wawrinka. Le Français Gaël Monfils joue son quart de finale ce soir face à l'Italien Matteo Berrettini.
France Info. Et tout est plus clair.
La réforme des retraites, Agnès Buzyn, est-ce qu'on est d'accord tout d'abord pour dire que les Français doivent se préparer à travailler davantage, plus longtemps, pour conserver le montant de la retraite qu'ils avaient jusqu'à présent ?
Alors,
on va repartir de loin.
On va repartir du rapport de Jean-Paul Delevoye. Jean-Paul Delevoye a fait un travail extraordinaire pendant 2 ans. Il a énormément consulté. Il a bâti un système de retraite différent de celui qu'on a aujourd'hui, mais qui est plus équitable et qui prend en compte certaines inégalités aujourd'hui, notamment les personnes qui ont des carrières hachées et la carrière des femmes. Il repense aussi les droits familiaux, on voit bien que les familles ont changé, et donc il nous a construit un système cible de retraite qui est un très beau système.
Et il entre au gouvernement, précisément Jean-Paul Delevoye, pour gérer ce dossier. Vous aviez besoin de renfort ? Vous aviez sollicité ce renfort ?
Ah oui, nous en parlons depuis longtemps. Jean-Paul Delevoye et moi, ça fait longtemps que nous discutons de son entrée à mes côtés au gouvernement pour porter cette réforme. Pourquoi ? J'ai souhaité d'abord qu'il soit tranquille pendant 2 ans, et je crois que c'était bien qu'il fasse ce travail quelque part un peu dans l'ombre pour ne pas être exposé en permanence comme un membre du gouvernement, comme un ministre. Aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un.
Maintenant, il est au front.
Il est au front et il va mener les concertations qui démarrent demain avec tous les syndicats. Nous allons également organiser, ça va être son travail, une concertation citoyenne avec un regard sur les propositions concrètes qui ont été mises sur la table, dont l'âge pivot. L'âge pivot fait partie du rapport de Jean-Paul Delevoye, et l'âge pivot, c'est l'âge d'équilibre du système, l'âge d'équilibre financier.
L'âge pivot à 64 ans, qui était la solution que prenait Jean-Paul Delevoye, est-ce que c'est la solution qui va être retenue, une solution parmi d'autres, ou est-ce que c'est terminé depuis qu'Emmanuel Macron a dit que c'était pas sa préférence ?
Alors, ça n'est pas terminé, en ce sens que ce qu'a dit le président de la République, c'est que si on mettait en place une réforme uniquement par points, avec cet âge pivot ou pas, on ne prenait pas en compte la difficulté d'être juste avec les gens qui ont des carrières longues. Et l'idée du président de la République, c'est qu'on doit prendre en compte aussi la durée de cotisation, parce que quand on commence à travailler à 16 ans, il est évident, et souvent ce sont des métiers pénibles, ce sont souvent des métiers manuels, même si la carrière des gens peut changer, mais quand on commence à travailler à 16 ans, c'est que généralement on n'a pas fait d'études, et donc il faut tenir compte de ces carrières longues et ne pas obliger des gens qui commencent à travailler à 16 ans d'aller jusqu'à 64 ans.
Donc il y aura peut-être une forme de mix entre toutes ces mesures. On pourra jouer sur le levier de la durée de cotisation et sur le levier de l'âge de départ à la retraite.
C'est exactement la question qui nous est posée.
C'est exactement la question que je vous pose.
Et sur lequel nous travaillons, c'est-à-dire comment on fait coexister, comment on tient compte à la fois de la durée et à la fois d'un système par points qui est celui proposé par Jean-Paul Delevoye. Et c'est ce qui va être discuté à partir de demain avec les partenaires sociaux.
Ça signifie, pour être bien clair, Agnès Buzyn, que l'idée d'un âge pivot à 64 ans pour toucher une retraite à taux plein, un âge pivot universel pour tout le monde, cette idée-là, elle est enterrée.
Elle est sur la table, elle va être discutée, mais clairement, il y a des personnes, et c'est ce qu'a dit le président de la République, qui vont devoir travailler un peu moins, parce qu'ils ont commencé beaucoup plus tôt. Il y a aussi des métiers dont la pénibilité, nous le savons, implique des départs anticipés. Donc cette réforme, elle est universelle, c'est-à-dire que le système est pensé de façon uniforme.
Mais tout le monde n'aura pas forcément le même âge pivot pour toucher une retraite à taux plein.
Ce que je veux expliquer aux Français, c'est d'où sort cette idée de l'âge pivot. Ce n'est pas une idée dogmatique. C'est qu'en réalité, on s'est rendu compte que si on veut que notre système soit à l'équilibre financier, c'est-à-dire qu'on soit en capacité de payer les pensions de retraite des retraités, ne pas augmenter la cotisation des actifs, ne pas faire peser sur les actifs encore plus de charges, nous avons besoin que les Français travaillent un peu plus longtemps pour que l'équilibre financier du système soit assuré et que ce ne soit pas nos enfants qui payent la dette que nous aurons sur les retraites.
Donc vous ne voulez pas que les Français qui ont commencé le plus tôt à travailler soient obligés de le faire jusqu'à 64 ans.
Il
y aura donc peut-être
justice.
Plusieurs systèmes qui vont cohabiter.
Non, il y a des adaptations du système face à des situations particulières dont on doit tenir compte. Et universalité ne veut pas dire uniformité complète. Universalité, c'est que c'est un système unique dans sa conception, mais il peut y avoir des cas particuliers, et c'est cela que nous allons travailler.
Donc cet âge pivot nécessaire pour toucher une retraite à taux plein, qui va toucher, donc qui va concerner certains Français, mais pas tous, c'est bien une façon de faire travailler davantage les Français, les faire travailler plus longtemps, vous le disiez à l'instant, pour financer le système. Les faire travailler plus longtemps sans repousser l'âge légal du départ en retraite.
Oui, on ne touche pas à l'âge légal. Il faut que les gens qui se sont préparés à partir à 62 ans, ou qui... malgré une décote, considèrent que leur pension de retraite leur permet de vivre correctement parce qu'ils peuvent avoir, par exemple, acheté leur maison, qu'ils n'ont pas des besoins importants, puissent partir à 62 ans.
Donc, mais sans retraite légal, à taux plein.
Mais il y aura une décote, c'est ce que propose le haut-commissaire en tous les cas dans son rapport. Maintenant, le rapport est soumis à concertation. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que nous avons fait un travail où il y a une construction d'un système... le plus juste possible, le plus équitable et qui corresponde aux revendications des Français, puisqu'il y a eu une très forte consultation citoyenne menée par Jean-Paul Delevoye dans les régions avec les partenaires sociaux. Il a bâti un système qu'il a proposé dans un rapport et maintenant nous mettons les mesures concrètes de ce rapport à la concertation avec les partenaires sociaux.
Ce sont des discussions, c'est une concertation ou c'est une négociation qui s'ouvre demain à Matignon ?
C'est une discussion pour commencer. Ah. Nous avons discuté de la méthode. Et nous allons discuter du calendrier.
Et ça va durer combien de temps ?
À l'issue de ces discussions avec les partenaires sociaux, le Premier ministre annoncera le format de la concertation.
Cette grande consultation, elle va durer combien de temps ? Près d'un an, comme l'a dit Gérald Darmanin il y a quelques jours ?
Non, certainement moins. Nous partons sur quelques mois. Et les annonces seront faites la semaine prochaine, une fois qu'on aura discuté avec les partenaires sociaux. Nous préférons quand même
quelques
les entendre
mois,
avant de faire
les élections
des annonces.
Municipales. C'est après les élections municipales, forcément, l'adoption de cette
réforme ? Non, pas forcément. Ça dépend aussi du projet de loi, de ce qu'on y mettra. On peut imaginer un projet de loi qui soit un projet de loi simplement qui décrit la cible. On peut avoir un projet de loi aussi beaucoup plus complet, qui écrit aussi les périodes de transition. Et donc tout ça est aujourd'hui en discussion.
D'un mot, Agnès Buzyn, la réforme des retraites est censée entrer en vigueur en 2025. D'ici là, avant 2025, c'est-à-dire pour la fin du quinquennat, est-ce qu'il y aura des mesures d'économie sur les retraites ou est-ce qu'on ne touche pas au système jusqu'en 2025 ?
Aujourd'hui, nous avons bien pris la décision de n'avoir aucune mesure sur les retraites dans les projets de loi de financement de la Sécurité sociale.
Pour 2020 uniquement, mais au-delà.
Pour 2020 ouais. Et pour 2021 ou 2022, ce que nous avons décidé, c'est que s'il devait y avoir la moindre mesure pour le retour à l'équilibre du système, de façon à ce qu'on démarre un nouveau système en 2025 à l'équilibre, sans qu'il soit déficitaire, ces mesures figureront dans la loi qui concerne le nouveau système des retraites. Donc il n'y aura pas de mesures dédiées aux retraites dans les lois de financement de la Sécurité sociale.
Agnès Buzyn, dans un instant, on va parler de la PMA pour toutes les femmes, si vous voulez bien. Il est 9h10. Lauriane Delanoë pour le rappel de l'actu.
L'environnement préoccupe de plus en plus les Français. C'est leur deuxième préoccupation en cette rentrée. Derrière le pouvoir d'achat, devant la sécurité et le terrorisme, c'est nouveau. D'après un sondage Kantar Winepoint pour France Info, entre enseignements, plus de la moitié des sondés, 51%, ont une mauvaise opinion de l'action d'Emmanuel Macron. Le directeur général de la police nationale s'engage ce matin sur France Info. Nous nous donnerons les moyens d'envoyer des policiers chaque fois qu'un homme violent s'approchera de sa compagne ou ex-homme qui portera un bracelet électronique anti-rapprochement. Cette mesure va être mise en place. C'est l'une des annonces de l'ouverture du Grenelle des violences conjugales. Les députés britanniques prennent le contrôle de leur agenda parlementaire, normalement fixé par le gouvernement. La motion de l'opposition votée grâce aux voix de certains conservateurs opposés au Brexit sans accord. Une défaite pour le Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson. 8,5 millions de Français ont choisi Airbnb pour trouver leur appartement de vacances cet été. Chiffre en hausse d'après la direction de la plateforme qui s'exprime dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France. La France, deuxième marché au monde après les États-Unis.
France Info. Et tout est plus clair.
Toujours avec la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, la question à présent de la PMA et de son ouverture à toutes les femmes. Renaud Dely.
Parce que ce texte, cette réforme donc d'extension de la PMA à toutes les femmes vient en débat dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à la fin du mois de septembre. D'ores et déjà, la Manif pour tous a appelé à une manifestation le 6 octobre prochain. Et une frange de la droite est prête à se joindre à ces manifestations et y participer. C'est le cas notamment du député européen François-Xavier Bellamy qui était notre invité ici même à votre place il y a quelques jours.
Oui, bien sûr, j'irai manifester, tout à fait. Je crois que c'est important de prendre part à ce débat. Je le ferai en essayant d'avancer des idées. Je l'ai déjà fait, d'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion d'écrire sur cette question. Ça n'est plus un acte médical au sens classique de ce terme. Encore une fois, il ne s'agit plus de traiter une pathologie.
On devrait l'appeler comment, à vos yeux ?
On devrait l'appeler une procréation techniquement assistée. C'est-à-dire, c'est plus un acte médical.
La droite prête à manifester. François-Xavier Lamy qui parle de procréation techniquement assistée. Quand vous entendez ces propos, est-ce que vous redoutez, Agnès Buzyn, un remake des manifestations massives contre le mariage pour tous en 2013 ?
Alors, d'abord, je ne le redoute pas. Je pense que la société française est assez apaisée sur le sujet et que la plupart de nos concitoyens ne voient pas pourquoi on empêcherait des femmes qui ont un désir de parentalité d'accéder à ces techniques plutôt que de s'exposer quelque part à avoir des rapports non protégés avec des gens qu'elles connaissent pas parce qu'elles ont un désir d'enfant. On voit bien aussi qu'il y a une mesure sanitaire, c'est-à-dire qu'on protège les femmes d'une prise de risque avec des hommes qu'elles rencontreraient une nuit. On voit certaines femmes aussi qui demandent un donneur de spermatozoïdes sur Internet. Donc, on est en train de sécuriser le parcours de femmes qui ont un désir de parentalité. Deuxièmement, Monsieur Bellamy ne connaît pas aujourd'hui les critères pour accéder à la PMA. En réalité, on n'a pas besoin de preuves d'infertilité pour accéder à la PMA. Tout couple qui dit avoir des difficultés pour avoir un enfant depuis un an accède à la PMA. Il n'est absolument pas nécessaire de prouver médicalement qu'on est infertile, quelle que soit la raison, même parfois psychologique, parce qu'on voit bien un certain nombre de couples qui ont leur premier enfant avec une PMA et ça déclenche quelque chose et leurs enfants suivants sont obtenus de façon naturelle.
Donc,
si je puis dire.
De ce point de vue-là, à vos yeux, étendre la PMA au couple de femmes, par exemple, ça ne change pas la nature de l'acte, contrairement à ce que
Non, ça ne change pas la nature de l'acte. En fait, on aide à un projet de parentalité. Dans certains cas, il y a une infertilité d'origine médicale. Dans d'autres cas, je le dis aujourd'hui, certains couples ont des difficultés d'origine autre, puisque on voit bien que ils ont des enfants ensuite sans recourir à la PMA, et donc ça veut bien dire qu'ils ne sont pas infertiles médicalement parlant. Et donc en réalité, on supprime le critère d'infertilité dans la loi, et on dit simplement que tout couple ou femme célibataire qui a un désir de parentalité très important pourra accéder à ces techniques, ce qui évite en fait une prise de risque de femmes qui aujourd'hui, quand elles ont vraiment un désir d'enfant, accèdent de toute façon à ce désir de façon non sécurisée.
Des députés de droite, Agnès Buzyn, sont hostiles au remboursement de la PMA à toutes les femmes par la Sécu, au motif que la PMA pour les couples de femmes ou pour les femmes seules ne résout pas une pathologie.
Mais je le dis, et c'est là où il y a un défaut de raisonnement, il n'est en aucun cas nécessaire d'avoir une pathologie pour recourir à la PMA aujourd'hui. On aide des couples qui exprime une difficulté à avoir un enfant depuis un an.
Donc vous ne lâcherez pas sur ce point, ce sera remboursé
pas.
À 100%
et nous
par la Sécu.
Nous n'avons jamais demandé à des couples de prouver, et d'ailleurs c'est pas ce qu'on fait en PMA, les équipes médicales elles recherchent une cause d'infertilité évidemment, mais quand elles n'en trouvent pas, c'est pas pour ça qu'elles empêchent ces couples d'accéder à la PMA.
Et ce sera remboursé à 100%.
Et donc ça sera remboursé comme pour les couples hétérosexuels, on répond à une infertilité, qu'elle soit d'origine médicale, psychologique ou factuelle, parce que des couples de femmes ou des femmes célibataires ne peuvent pas avoir d'enfants autrement. Et on sécurise le parcours des femmes sur le plan médical. On leur évite des prises de risque. Et ça, j'y tiens énormément.
Quelques mots. Oui, pardon.
Gilles Legendre, ici même, il y a une dernière question sur la PMA. Gilles Legendre, ici même, expliquait que le groupe La République En Marche aurait liberté de vote, que les députés de La République En Marche auraient liberté de vote sur ce texte. Pourquoi ? Ça vous
inquiète ?
C'est
vrai aussi des Républicains et c'est vrai de tous les groupes parlementaires à ma connaissance. En tous les cas, quand j'ai eu des échanges avec les différents présidents de groupe, j'ai la sensation que sur ces questions, elles peuvent être sociétales, parfois elles sont très scientifiques. J'ai l'impression que les groupes vont laisser à tous les députés une liberté de vote. Et d'ailleurs, on voit bien que les fractures au sein des groupes vont dépendre en fait des mesures et qu'on risque d'avoir des alliances qui vont se faire dans un cas plutôt avec la droite ou avec la gauche, selon le type de mesure qui va être proposée.
Un mot de la situation politique à Paris, si vous voulez bien, Agnès Buzyn, puisque Cédric Villani va annoncer ce soir sa candidature face au candidat quasi officiel de l'Élysée, Benjamin Griveaux. Est-ce qu'il vous a trahi ?
En tous les cas, je regrette à titre personnel qu'on arrive en ordre dispersé à la candidature à la mairie de Paris. Je pense que ça nuit considérablement aux chances de succès de notre candidat. Après, je pense que Cédric Villani est un homme de conviction, il est profondément engagé.
Il fait un peu son Macron.
Peut-être.
Y aller sans parti, tout seul.
Peut-être. Et, bon, c'est un.
Ça avait réussi.
Donc ça peut marcher. Oui.
Je ne sais pas si ça peut marcher. En tous les cas, je pense que l'image que ça donne de compétition interne n'est pas une bonne image pour La République En Marche. Et je regrette évidemment qu'on en arrive à cette situation.
Doit-il être sanctionné, exclu?
Je crois que le groupe l'a dit, ne souhaite pas aujourd'hui exclure Cédric Villani, et donc voilà, j'en prends acte.
Vous, votre choix est fait?
Moi, mon choix est fait, bien sûr.
Ce sera
Benjamin Griveaux, qui est le candidat de La République
Même
En Marche.
Même si les sondages se mettaient à donner Cédric Villani en tête.
Écoutez, aujourd'hui, il y a un candidat officiel de La République En Marche. Il est investi et je pense qu'il a toutes les chances de gagner parce qu'il a un vrai projet différent pour Paris. Donc on va le laisser faire campagne et puis nous verrons dans quelques mois.
Merci Agnès Buzyn.
Il n'y a pas de liberté de vote là.
Ouais. C'était le mot de la fin, Renaud Dely. Merci beaucoup Agnès Buzyn.
Merci.